Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié initialement en 2007, « Notre existence a-t-elle un sens ?» est un essai de Jean Stone, à la frontière de la vulgarisation scientifique, de la philosophie des sciences et de la réflexion métaphysique. Son ambition est de réexaminer les conséquences intellectuelles du grand récit moderne selon lequel le cosmos, la vie et la conscience seraient réductibles à la matière, au hasard et aux mécanismes aveugles. Stone parcourt des domaines variés, notamment la cosmologie, la physique quantique, la biologie évolutive et les sciences de la conscience. Il ne propose pas une démonstration religieuse au sens strict, mais défend la thèse que les sciences contemporaines fragilisent plusieurs certitudes matérialistes. Le livre cherche ainsi à rendre pensable un univers plus ouvert que celui du déterminisme classique, sans confondre les méthodes scientifiques et les croyances spirituelles. Préfacé par Trinh Xuan Tuan. Cet ouvrage volumineux vise des lecteurs désireux de comprendre comment des découvertes scientifiques peuvent nourrir une interrogation renouvelée sur la place humaine dans le réel. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, du désenchantement moderne à la remise en cause du matérialisme exclusif, le point de départ du livre est historique et philosophique. Jean Stone décrit la manière dont plusieurs ruptures intellectuelles ont déplacé l'humanité hors du centre du monde. La révolution copernicienne retire à la Terre son privilège cosmique. La théorie de Darwin inscrit les espèces dans une histoire naturelle. Et les critiques modernes de la religion semblent retirer toute finalité objective à la nature. Dans cette perspective, le sens devient une production subjective, tandis que la matière et le hasard paraissent suffire à expliquer le réel. Stone ne conteste pas ses acquis scientifiques. Il critique plutôt le saut interprétatif qui consiste à transformer des méthodes efficaces de description en une métaphysique totale. Expliquer des mécanismes ne revient pas nécessairement à établir que rien ne dépasse ces mécanismes. Cette distinction structure son enquête. Il soutient que le matérialisme n'est pas une conclusion obligée de toute science, mais une lecture philosophique parmi plusieurs lectures possibles. Le livre oppose donc au désenchantement non un retour à une cosmologie ancienne, mais une réévaluation des limites du paradigme mécaniste. Cette orientation explique sa portée polémique, il examine moins la validité des sciences que les visions du monde tirées de leurs résultats. Deuxièmement, la physique contemporaine et la question des niveaux de réalité, Stone accorde une place importante aux transformations conceptuelles associées à la physique du XXe siècle, surtout à la physique quantique. Son argument central est que le réel ne se laisse plus aisément représenter comme un assemblage de particules possédant, en tout temps, des propriétés parfaitement déterminées et indépendantes de toute observation. Les phénomènes quantiques imposent des limites aux images familières issues de la mécanique classique et rendent problématique une représentation simple de la matière comme fondement autosuffisant de toute réalité. L'auteur en tire une invitation à la prudence métaphysique. Il ne prétend pas que la physique prouve directement une doctrine spirituelle. Il estime en revanche que ces étrangetés conceptuelles rendent moins crédible une vision réductrice qui identifierait sans reste le réel à ce qui est mesurable dans un cadre classique. Il rapproche cette ouverture de la distinction platonicienne entre monde sensible et monde intelligible, en précisant implicitement que cette analogie relève de la philosophie plutôt que du résultat expérimental. La valeur de cette partie réside dans son effort pour montrer que science et matérialisme ne sont pas synonymes. Sa limite tient au fait que les interprétations philosophiques de la théorie quantique demeurent disputées parmi les physiciens et les philosophes. Troisièmement, vie. Évolution et débat sur la place du hasard dans les lois naturelles, dans son examen des sciences de la vie. Jean Stone interroge le statut du hasard dans une histoire évolutive souvent présentée comme dépourvue de direction. Le livre ne nie pas le rôle essentiel des variations, de la sélection et des contingences historiques. Il cherche plutôt à distinguer deux niveaux, les circonstances particulières qui auraient pu produire des formes de vie différentes, et les conditions plus générales qui rendent possible la complexité du vivant. Cette distinction lui permet de soutenir que la contingence des trajectoires évolutives ne démontre pas à elle seule que la vie soit entièrement étrangère à la structure de elle. Univers. Stone insiste sur la tension entre ordre et désordre, régularité et imprévisibilité. Une telle dialectique évite deux simplifications opposées, un déterminisme rigide où tout serait programmé dès le départ, et une vision où tout événement biologique serait un pur accident sans cadre intelligible. Son propos demeure philosophique, car les sciences biologiques établissent des mécanismes et des histoires, sans trancher directement la question ultime du sens. Cette partie intéressera surtout les lecteurs qui veulent comprendre pourquoi le débat sur Darwin dépasse fréquemment la biologie. Elle rappelle utilement que la reconnaissance du hasard comme facteur causal ne dispense pas de préciser ce que le mot hasard signifie dans une interprétation globale du monde. Quatrièmement, la conscience comme défi adressé au réductionnisme neuronal, un autre axe majeur du livre concerne la conscience. Stone met en question la thèse selon laquelle les expériences subjectives, la pensée et la liberté seraient entièrement réductibles à l'activité cérébrale. Son objectif ne consiste pas à nier le lien étroit entre cerveau et vie mentale, lien solidement établi par les neurosciences. Il souligne plutôt la différence entre corrélation, dépendance fonctionnelle et réduction ontologique. Constater que des états mentaux varient avec des états neuronaux ne suffit pas, selon cette approche, à résoudre le problème de la subjectivité, elle-même la présence vécue du monde, la sensation, le sens et le point de vue de la première personne. Le livre fait de cette difficulté un indice contre les explications qui voudraient ramener tous les phénomènes humains à des processus physico-chimiques décrits de l'extérieur. Cette discussion nourrit la thèse générale de niveau de réalité irréductible à une description unique. Elle ouvre aussi une question éthique et sociale si la personne ne se confond pas simplement avec un mécanisme neuronal les discours sur la responsabilité. La liberté et la dignité exigent une attention conceptuelle particulière. Le lecteur doit toutefois distinguer ici une critique légitime du réductionnisme fort et une preuve positive de la survie de la conscience ou de son indépendance complète, que les données scientifiques ne fournissent pas directement. En dernier lieu, vers un dialogue rigoureux entre connaissances rationnelles et traditions spirituelles. La conclusion intellectuelle de John Stone vise un rapprochement possible entre connaissances rationnelles et intuition spirituelle. Il ne présente pas ce rapprochement comme la fusion de la science et de la religion, ni comme une validation expérimentale de dogmes déterminés. Son idée est plus limitée et plus ambitieuse à la fois la science moderne, en reconnaissant des zones de limite, de complexité et de non-réductibilité. Laisserait à nouveau un espace légitime aux questions de sens, de finalité et de transcendance. La préface de Trinh Xuan Tuan s'inscrit dans cette orientation en évoquant la complémentarité possible entre investigation scientifique et expérience spirituelle. Cette position rejette deux confusions fréquentes. La première voudrait que la science puisse résoudre seule toutes les questions humaines. La seconde utiliserait des résultats scientifiques sélectifs pour imposer des croyances religieuses. Stone cherche une vision unifiée, mais il maintient en principe la diversité des modes de connaissance et des plans de discours. Cette aspiration explique le terme de réenchantement souvent associé à son livre. Il désigne moins le retour de certitudes anciennes que la possibilité de considérer le cosmos comme intelligible et humainement significatif. Le lecteur critique y trouvera un dossier stimulant sur les frontières entre faits, interprétations philosophiques et convictions existentielles. En conclusion, notre existence a-t-elle un sens ? Conviendra au lecteur qui souhaite aborder les liens entre science, philosophie et spiritualité sans se limiter à une introduction technique dans une discipline unique. Il peut être particulièrement utile à ceux qui se demandent ce que la cosmologie, la biologie, la physique quantique et les neurosciences permettent réellement de conclure sur la place humaine dans le monde. Son bénéfice intellectuel principal est de rendre visibles les présupposés philosophiques souvent dissimulés dans les discours scientifiques popularisés, une explication causale neutre. Constitue pas automatiquement une négation du sens, et le matérialisme exclusif ne se confond pas avec la pratique scientifique elle-même. Le livre se distingue des essais religieux apologétiques par son effort de s'appuyer sur des débats scientifiques contemporains, et des ouvrages de vulgarisation strictement descriptifs par son ambition métaphysique assumée. Cette combinaison donne au texte son originalité, mais demande aussi une lecture active. Certaines extrapolations entre résultats scientifiques et conclusions philosophiques peuvent être discutées, notamment autour de la physique quantique, de la conscience et de la finalité du vivant. Il est donc préférable de le lire comme une enquête argumentée et pluraliste, non comme un consensus scientifique établi. Pour un lecteur curieux, cette réserve ne diminue pas son intérêt, elle fournit au contraire des repères pour distinguer les faits, les modèles explicatifs et les interprétations du réel. L'ouvrage demeure ainsi une porte d'entrée substantielle vers les débats sur le réenchantement du monde et les limites du réductionnisme. Si vous souhaitez soutenir John Stone, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.